midi, midi 15, le quart d'heure actu sur RCN. Magali Santulli.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 24 juin, nous fêtons les Jean-Baptiste, les Baptiste, les Jack, les John et les Yann. C'était un 24 juin 1947, les médias américains parlent pour la première fois de soucoupe volante lorsque le pilote Kenneth Arnold dit avoir vu 9 disques lumineux depuis son avion. On jette un coup d'œil à la météo du jour en Meurthe-et-Moselle. Nous approcherons cet après-midi les 37 degrés à l'ombre. Cette très forte chaleur s'accompagne d'un soleil généreux et de rares nuages. Le département continue de se diriger vers des chaleurs extrêmes ces prochains jours. Dans notre dossier du jour, conversation, sonnerie, notification, machine à café, imprimante, les risques professionnels liés au bruit ne s'arrêtent pas aux portes des usines ou des chantiers. Le secteur tertiaire est également concerné. Ces bruits considérés comme anodins ne sont pas sans effet sur la santé des travailleurs. Mais d'abord, face au risque d'incendie de forêts et de végétaux, le préfet de Meurthe-et-Moselle active le degré de danger sévère sur l'ensemble du département. 9 incendies de forêts sur 10 sont d'origine humaine. La grande majorité des départs de feu se produit en bordure de route, par exemple à cause d'un jet de mégots ou par négligence comme un barbecue en milieu naturel, le brûlage de végétaux ou des travaux domestiques et agricoles. Un départ de feu non maîtrisé peut vite embraser plusieurs hectares.
Le quart d'heure actu sur RCN.
Tout de suite, c'est le rappel des titres. Météo France place ce mercredi 58 départements en vigilance rouge à la canicule. À 5 heures, les températures minimales atteignaient déjà 20 à 26 degrés. La journée de mardi a été la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des mesures en 1947, avec un indicateur de 29,8 degrés. De nouveaux records ont été mesurés, avec notamment 43,3 degrés à Cazaux, 42,2 à Niort ou encore 42,1 à Bordeaux. La ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, a indiqué que la France devrait connaître la semaine prochaine une pause relative dans l'épisode caniculaire en cours. Cependant, Météo France indique que les probabilités sont fortes pour qu'à partir de la semaine du 6 juillet, nous revenions à des chaleurs extrêmes, et ce jusqu'au 14 juillet. Environ 6000 écoles sont fermées ou ont aménagé leurs horaires ce mercredi. Le brevet qui démarre, lui, vendredi, est maintenu avec des aménagements pour permettre aux élèves d'être dans des conditions plus confortables, annonce le ministre de l'Éducation nationale. Il a également précisé qu'environ 10 000 candidats au bac sur 130 000 ont vu leurs épreuves orales décalées cette semaine. Dans les départements placés en vigilance rouge, les préfets peuvent désormais suspendre les chantiers entre 13h et 21h. Et puis environ 60 000 foyers sont privés d'électricité dans le sud du Finistère ce mercredi en raison d'un incident lié à la chaleur sur un transformateur du réseau RTE. Avec les fortes chaleurs, le réseau électrique de France est en effet mis à rude épreuve. L'approvisionnement en énergie pourrait être menacé, hein, ce qui fait craindre des coupures ainsi qu'une hausse de la facture d'électricité. La chaleur du sous-sol, hein, fragilise les câbles les plus anciens qui représentent encore 15 000 km de réseau. Et puis, autre inquiétude mais moins immédiate, la baisse de la production. Les 57 réacteurs nucléaires du pays doivent être refroidis par la mer ou un cours d'eau. La hausse de la température des rivières peut contraindre EDF à réduire, voire arrêter sa production pour éviter de réchauffer davantage les cours d'eau. Et puis face à la canicule, les premières tensions se font sentir à l'hôpital. Les appels aux urgences ont augmenté, notamment pour des cas de déshydratation, malaise, vertige. C'est pourquoi le niveau 2 sur 4 du plan Orsan est activé par le gouvernement. Il permet entre autres de mobiliser les personnels nécessaires au fonctionnement de l'hôpital et en dernier recours de déprogrammer certaines opérations non urgentes. Les autorités se préparent à la fin de semaine avec l'arrivée des potentielles décompensations de patients 5 à 10 jours après les premières chaleurs. On passe tout de suite au dossier du jour.
RCN, le quart d'heure actu, Magali Santulli.
Conversation, sonnerie, notification, machine à café, imprimante. Contrairement aux idées reçues, les risques professionnels liés au bruit ne s'arrêtent pas aux portes des usines ou des chantiers. Le secteur tertiaire est également concerné. Ces bruits généralement considérés comme anodins ne sont pas sans effet sur la santé des travailleurs. C'est pourquoi l'INRS, l'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la Prévention des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles, lance une campagne nationale d'information pour aider les entreprises à agir contre ces nuisances sonores souvent sous-estimées. Patrick Chevret est responsable du laboratoire acoustique au travail à l'INRS.
Le bruit au travail, ça a toujours été, ça reste aujourd'hui une nuisance majeure, un risque majeur pour les salariés au travail. Il y a plusieurs centaines de surdités chaque année qui sont enregistrées auprès de l'assurance maladie. Et chaque surdité donne droit à une réparation qui présente un coût élevé pour l'assurance maladie. On estime que c'est à peu près 100 000 euros par surdité. Donc c'est un enjeu important. Alors le nombre de personnes, effectivement, n'apparaît comme pas très élevé, mais le coût pour l'assurance maladie est élevé. Et donc ça en fait encore la quatrième ou cinquième maladie professionnelle en termes de coût pour l'assurance maladie. On a quelques centaines de personnes qui deviennent sourdes à cause des niveaux élevés de bruit dans les entreprises. Le nombre de salariés en activité, c'est à peu près 30 millions de personnes et on estime qu'à peu près la moitié se disent gênés par le bruit au travail. Donc on peut estimer qu'il y a à peu près 15 millions de personnes qui se disent gênées par le bruit au travail. En général, la surdité, elle est due à des niveaux sonores élevés. Donc le code du travail est très clair avec ça. À partir de 80 dBA, on va considérer que les niveaux sont lésionnels et que ça présente un risque pour les salariés. Par contre, il existe des secteurs d'activité où les niveaux de bruit sont beaucoup plus bas. Et dans ce cas-là, on n'aura pas de surdité qui vont se déclarer, mais ce sont ce qu'on appelle des effets extra-auditifs, c'est-à-dire des effets qui vont intervenir ailleurs que sur le système auditif, par exemple sur le système cardiovasculaire. On va noter aussi des troubles cognitifs. Et sur le long terme, ceci va se manifester par du stress au travail, ça va se manifester par de la fatigue, une perte de sommeil éventuellement. Donc c'est un coût pour le salarié, ça représente un coût de santé pour le salarié, ça représente aussi un coût pour l'entreprise, puisque perte de motivation du salarié, perte de performance aussi à réaliser ses tâches. C'est un coût à la fois pour le salarié, mais aussi pour le responsable d'entreprise. Les entreprises font une auto-évaluation, donc elles vont estimer le niveau de bruit dans leurs locaux. Ça va être enregistré dans le document unique. Après, en cas de doute, on peut demander à des organismes certifiés de venir faire une évaluation des niveaux de bruit, et ceci va s'appuyer sur un certain nombre de règles et de normes pour faire cette évaluation. Pour le plus fort, ça va être le domaine industriel, l'industrie métallurgique, le BTP. Dans certains lieux, on va avoir aussi des tirs d'armes. Là, on a des niveaux lésionnels, donc des très très forts niveaux. Ça, c'est pour les niveaux très élevés. Après, le plus fréquent, on va retomber dans des niveaux plus faibles, des niveaux modérés, et là, on va revenir dans le domaine tertiaire. Ce sera les open space, la restauration, la petite enfance, les salles omnisports, par exemple. Voilà, tout ce domaine-là, on va avoir des niveaux qui vont être autour de 50 à 80 dB, juste en dessous de la première valeur d'action définie par la réglementation. Le code du travail cadre parfaitement les actions de prévention pour le bruit au-delà de 80 dBA. Mais en fait, les actions de prévention sont les mêmes pour le domaine tertiaire. On va s'occuper d'abord du bruit des équipements. Alors, pour citer quelques exemples, dans la restauration, ça va être le bruit d'une machine à laver, le bruit de l'ensemble des machines, en fait, ou le bruit de vaisselle, ce qu'on va appeler les équipements. Ensuite, on va s'occuper du local de travail, donc apporter des absorbants au plafond, sur les murs, mettre des séparations entre différentes activités. Et puis, en dernier recours, comme partout, on va s'occuper de mettre en place des systèmes de protection individuelle, mais dans le domaine tertiaire, c'est assez rare quand même, hein, puisque les niveaux ne sont pas très élevés. Donc, c'est vraiment pour des situations spécifiques où on va aider les salariés au travers de l'utilisation de protecteurs individuels. C'est vraiment une sensibilisation des responsables d'entreprise, des IPRP, les intervenants en prévention des risques professionnels, les services de santé au travail, tous les professionnels qu'on va chercher à sensibiliser. On va les sensibiliser au travers de brochures, on a tout un tas de brochures, on va les sensibiliser au travers d'événements, notamment sur cette fin d'année 2026, on organise une campagne bruit dans le tertiaire, donc justement pour sensibiliser sur les effets du bruit dans le tertiaire, et dans le cadre de cette campagne, on a plusieurs événements qui sont prévus, nous sommes à Préventica sur ce mois de juin, nous avons un plateau télé dans le cadre du magazine Travail et Sécurité, sécurité qui aura lieu le 2 juillet et puis une demi-journée technique qui aura lieu en septembre, le 22 septembre. Une journée durant laquelle on aura différents intervenants, à la fois des professionnels de santé, des spécialistes de bureaux d'études, etc. pour discuter de ce problème spécifique. C'est un enjeu de santé professionnelle. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Hein. Le tertiaire, donc je vous ai parlé de 30 millions d'actifs, c'est 20 millions de salariés dans le tertiaire. Encore une fois, si on a la moitié des personnes qui sont gênées, qui se disent gênées, qui ressentent une fatigue, etc., c'est des personnes qui sont susceptibles à un moment d'avoir des troubles sur leur santé. Donc ça fait environ 10 millions de personnes qui sont susceptibles d'être impactées par les bruits dans le secteur tertiaire. Oui. Je peux parler des modalités d'action pour notre laboratoire. Ce sont des modalités qui sont à la fois court et moyen terme et des modalités plutôt long terme. Les modalités court et moyen terme, ça va être des assistances auprès des entreprises, je vous en ai parlé. Donc là, on va intervenir et proposer sur des questions un peu spécifiques. Donc on va proposer des solutions d'amélioration. Et puis on a des modalités de travail qui sont plutôt sur le long terme, sur nos études et recherches, où là, il y a des questions très générales qui sont posées. Sur la base de nos recherches en laboratoire, on va essayer d'apporter des réponses à ces questions. Par exemple, en ce moment, on travaille avec l'IRSST, qui est notre homologue canadien, sur un sujet qui les intéresse et qui nous intéresse, c'est le problème des casques à conduction osseuse. Alors, les casques à conduction osseuse sont très utilisés dans le grand public, pour la course à pied, oui, etc. Donc, ils ont l'avantage de pouvoir écouter de la musique, tout en continuant d'écouter l'environnement extérieur, ce qui peut éviter un accident. Et l'idée des fabricants et des responsables d'entreprise, c'est de dire, bah, je vais utiliser cette technologie-là au travail. Ça permettra à mes salariés à la fois de communiquer entre eux au travers de la conduction osseuse, mais de pouvoir être quand même en sécurité parce que je vais entendre l'environnement extérieur. Ça, c'est l'idée. La question qu'on se pose, c'est est-ce que les personnes ne sont pas surexposées lorsqu'elles utilisent ces casques parce qu'elles sont exposées à la fois à l'environnement sonore plus aux conversations permanentes au travers du casque. Donc, il y a double exposition et les fabricants, les responsables d'entreprise ne se sont pas du tout intéressés à cette problématique-là. Et donc, ça, c'est un sujet sur lequel on travaille pour essayer d'évaluer si, ok, ça apporte des choses intéressantes, mais est-ce que la contrepartie, c'est pas d'être que le salarié soit exposé à des niveaux sonores trop élevés, quoi.
RCN, le quart d'heure actu, midi 15.
Et dans le reste de l'actualité, suite à l'affaire Liana, le ministre de la Justice se dit favorable à la création de fichiers de surveillance des pédocriminels à l'image des fichiers S. Gérald Darmanin a précisé que des dispositions seraient adoptées dans le cadre du projet de loi sur la protection de l'enfance qui doit débuter son examen à l'Assemblée en juillet. Mais pour cela, il faut que la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, donne son accord pour la création de ce genre de fichiers, ce qu'elle refuse encore. L'historien et résistant Marc Bloch a fait son entrée au Panthéon hier aux côtés de son épouse Simone. L'auteur de l'étrange défaite avait été exécuté par les nazis en juin 1944 à l'âge de 57 ans. Un cold case en passe d'être résolu plus de 21 ans après les faits. Le mari d'Akima Boukerouis, une mère de 4 enfants de 34 ans, avait été retrouvée morte dans un tonneau le 7 janvier 2005 au bord d'une route de Saint-Quirin en Moselle. Son mari qui vient d'avouer les faits. En fait, le cadavre était en état de putréfaction. Il n'avait pas pu être identifié à l'époque. En juillet 2023, l'enquête avait été relancée. La victime identifiée. Et au fil de leurs investigations, les enquêteurs avaient découvert que son époux continuait de déclarer sa femme aux impôts. Le 9 juin dernier, le mari de la victime a avoué le meurtre ainsi que celui de son fils né d'une précédente union. Les cancers et maladies cardiovasculaires sont restés en 2024 les principales causes de décès en France. Les cancers ont constitué 27,1% des décès et les maladies circulatoires en ont causé 21,2%. C'est un bilan annuel qui a été publié par plusieurs organismes de recherche mardi. Mais il est à noter que ces chiffres vont en déclinant. En revanche, une troisième grande cause de décès continue à progresser. Ce sont les maladies respiratoires.
Le quart d'heure actu sur RCN.
Le quart d'heure actu, ça touche à sa fin et tiens, avant de se quitter, quelques conseils pour prendre soin des oiseaux et des petits mammifères dans son jardin quand il fait chaud. Il est recommandé de placer des soucoupes d'eau fraîche à plusieurs endroits de son jardin et de veiller à ce qu'elles soient peu profonde, stable et à l'abri des prédateurs. Pensez à changer l'eau une à deux fois par jour. Pour les insectes, vous pouvez déposer une éponge gorgée d'eau ou une brique bien arrosée. Préservez aussi la végétation de votre jardin. Ça permet aux oiseaux et aux petits mammifères de ne pas souffrir de la chaleur. Évitez de tailler les haies et les arbustes pendant les périodes de canicule pour garder de l'ombrage. Ne tondez pas la pelouse trop rase et vous pouvez laisser des zones d'herbe haute pour maintenir l'humidité au sol. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain, même endroit, même heure.
Pour tout savoir sur RCN, www.rcn-radio.org.